La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, en Jésus, notre frère. Bienvenue à vous tous ce matin, en ce matin d'Épiphanie, dans cette maison de prière. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez par le biais d'Internet. Nous sommes ensemble dans la communion fraternelle en ce début d'année. Et j'en profite pour, avant toute chose, vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Les vœux sont des choses un peu étranges puisque on ne sait jamais très bien ce qu'il faut se souhaiter les uns les autres, mais en tout cas, il faut nous souhaiter beaucoup de bien dans cette année où nous avons beaucoup de raisons d'avoir des craintes et des peines, et il faut donc redoubler d'efforts pour que cette année soit belle malgré tout pour vous tous ici et pour tous ceux auxquels nous pensons ce matin. Je vous invite à nous réunir dans la communion fraternelle avec le premier chant du livret inséré au début des psautiers. Réjouissons-nous au Seigneur. Et c'est David Cassan qui nous accompagne ce matin à l'orgue. Louons le Seigneur. Et ce matin, nous louerons le Seigneur avec le psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en fait le récit au jour. La nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas en langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel qui coule dans les rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, et pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ces égarements ? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de tout péché. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Je vous invite à chanter ensemble dans la fidélité de ce qui nous rassemble ici, ô peuple fidèle, le cantique 101, les strophes 1, 2 et 3.
Thank you.
vous invite à vous asseoir. Écoutons ce que le Seigneur nous apprend sur notre chemin avec lui dans ce monde. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est un cri que le prophète Ésaïe lance vers Dieu. Nous sommes depuis longtemps comme ceux que tu ne gouvernes pas, Seigneur, et sur qui ton nom n'est pas proclamé. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Mais le Seigneur répond et il nous dit à tous son salut et je vous invite à vous lever pour recevoir cette grâce sans cesse renouvelée sur nous. Dieu nous promet quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit Dieu, et je te garde ma miséricorde.
Thank you.
Confessons ensemble notre foi. Aujourd'hui, nous croyons en toi, source de vie, qui enfante le monde et te manifeste de diverses manières au cœur de nos expériences de femmes, d'hommes et d'enfants. Aujourd'hui, nous croyons en toi, parole de vie, qui te dit dans nos quêtes de sens, nos recherches spirituelles, nos remises en question, et dans les non-savoirs qui habitent les femmes, les hommes et les enfants. Aujourd'hui, nous croyons en toi, effusion de vie, qui épouse nos désirs de mutualité, de réciprocité, de communion, dans nos engagements d'hommes, de femmes et d'enfants. Aujourd'hui, nous croyons en toi, qui suscite une ecclésia où femmes, hommes et enfants reçoivent, vivent et célèbrent librement leur foi. Aujourd'hui, nous croyons en toi qui accueille le don suprême de chaque femme, chaque homme, chaque enfant, dans la plénitude de ta vie. Amen. Ce matin, Épiphanie oblige, j'ai repris le texte de Matthieu au chapitre 2, versets 1 à 12. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem, de Judée ». Car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda. Car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis divinement en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Je vous invite à chanter le cantique 108, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à la prière. Éternel, permets que nous puissions dire dans cette tradition tellement ancienne les mots pour aujourd'hui, pour notre avenir, pour notre foi, pour la façon que nous avons de l'incarner dans ce monde. Éternel, éclaire-nous et permet que nous voyions dans les mots de ceux qui ont cru avant nous les mots de notre propre évangile pour aujourd'hui. Amen. Du fait de l'extrême brièveté des différentes informations qui existent à la fois sur leur fonction et sur leur véritable nature, les mages sont toujours apparus comme des personnages mystérieux et secrets. Leurs activités considérées comme hermétiques et impénétrables ont donné naissance à une multitude extravagante d'exagérations ou plus simplement de croyances formulées sans fondement aucun. C'est l'assyriologue et iranologue Alexandre Tourové qui faisait ce constat dans son article « Les mages en Perse, le culte, le pouvoir et le secret ». Il est vrai que si des témoins antiques comme Hérodote, Pline ou Diogène parlent des mages, c'est toujours avec très peu de détails et les indices nous manquent pour connaître la véritable fonction de ces personnages qui parcourent la tradition chrétienne canonique ou apocryphe d'ailleurs. On pourrait se dire, mais quelle importance après tout, puisque ces personnages énigmatiques n'apparaissent que dans un récit des évangiles et qu'ils ne transforment pas véritablement le récit des actes ou des dires du personnage Jésus. C'est pourtant ce qui ne figure pas dans les autres évangiles canoniques qui a de quoi nous intriguer. La présence même d'un récit aussi étrange au début d'un évangile doit au contraire nous alerter. Quelle signification peut donc avoir la présence de ces personnages dont l'existence est si peu documentée? À qui pouvait bien être adressée la présence de ces mages dans le récit évangélique mathéen, le récit de Matthieu? Peut-être aurez-vous déjà lu ou entendu ici même, et pas plus tard que le 24 décembre dernier, que l'évangile de Matthieu s'adressait sans doute à une communauté située dans la région d'Antioche sur l'Oronte. Troisième ville de l'Empire romain quand même, avec une très grande importance, et devenue capitale de la province romaine de Syrie. Antioche a toujours été une ville importante dès sa création, jusqu'à l'époque où fut écrit l'évangile de Matthieu. À la fin du 1er siècle, elle était très peuplée et constituait historiquement un carrefour pour les rencontres du monde hellénisé, mais aussi une porte sur les terres plus reculées de l'Asie, la Mésopotamie et l'Iran. Des communautés juives étaient installées en Syrie depuis très longtemps, dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, et donc 2 siècles avant la fameuse déportation à Babylone. Cette terre orientale était déjà importante pour l'histoire du judaïsme avant même la création de la ville d'Antioche sur l'Oronte, aujourd'hui située dans l'actuelle Turquie. Les Juifs s'étaient réfugiés en Syrie au moment de la destruction du premier temple de Jérusalem en 587. Puis, quand l'empereur perse Cyrus le Grand accède au pouvoir et prend la ville de Babylone, il permet aux exilés de rentrer à Jérusalem. Depuis Cyrus, la Judée était une province perse placée sous l'autorité d'un gouverneur. Plus tard, Esdras et Néhémie, 2 livres de la Bible, sont envoyés en mission par les Perses pour refonder la ville de Jérusalem. Bref, la domination perse a été vécue avec beaucoup plus de tolérance par les Juifs que nombre d'autres dominations à travers l'histoire. C'est donc important de le trouver au début de l'évangile de Matthieu, ce récit sur les mages. Tous ces éléments historiques sont importants pour comprendre un texte qui, jusqu'à nos jours, inspire une tradition biblique largement sécularisée, celle de l'Épiphanie et de la fameuse galette des rois. On a fait de cette tradition une apologie d'universalisme du christianisme, en attribuant à chaque roi venu adorer Jésus une race, car à l'époque on croyait qu'elles étaient bien définies. On a fait de Jésus, par ces images de mages, le roi des rois, celui qui domine sur tous les autres, avec des rois qui viennent l'adorer, lui, le tout petit. Mais cette propagande irrespectueuse des autres cultures et des autres religions n'a pas grand-chose à voir avec le texte que nous propose l'évangile de Matthieu, en vérité. On ne dit nulle part qu'il y a des mages qui viennent de plusieurs contrées, qu'ils arrivent des quatre coins du monde. On dit plutôt qu'ils viennent justement de ce levant d'où arrive la bonne parole des terres syriennes. Au contraire, Matthieu, loin de chercher à soumettre toute âme qui vive au pouvoir de Jésus, cible dans son évangile très précisément l'interlocuteur qu'il veut atteindre. Dans une controverse déjà ancienne, le bibliste Étienne Trocmé avançait à la suite de son analyse de l'évangile de Matthieu l'hypothèse que ceux qui l'avaient écrit n'étaient pas forcément des chrétiens devenus complètement indépendants du judaïsme, qu'ils auraient définitivement quitté, mais des juifs encore attachés à la loi juive et à leur foi et à la Torah, et en but contre la réforme pharisienne qui se développait depuis la destruction du temple de Jérusalem. Il faut dire qu'en se trouvant sans lieu de culte, sans ville où vivre, obligés de partir, d'habiter en diaspora, les Juifs de cette époque, après 70, se sont trouvés avec une grande difficulté théologique. Ils avaient l'impression de revivre un nouvel exil. Dans ce chaos religieux, où de nombreuses tendances théologiques avaient essayé de tracer un avenir à leur religion, les chrétiens, avec comme toutes les autres tendances juives, on ne les appelait pas encore les chrétiens à ce moment-là, mais en tout cas, ils allaient le devenir, ils ont continué, eux aussi, à s'efforcer de dire quelque chose pour l'avenir du peuple juif. Ils ont vu s'effondrer le sanctuaire et avec lui le dernier centre de gravité des débats théologiques encore utiles à l'émancipation du peuple juif, alors sous domination romaine. C'est donc un contexte très troublé, un moment de difficulté pour une communauté qui sans doute est en butte avec une autre communauté, celle des synagogues de la diaspora. La communauté mathéenne, sans doute composée de réfugiés juifs ayant fui la destruction de la ville sainte, de païens séjournant en Syrie et fuyant peut-être aussi des réalités difficiles ailleurs, car les guerres n'étaient pas isolées dans ces contrées, des Syriens déjà installés depuis longtemps à Antioche, d'origine juive, grecque ou romaine, toute cette communauté hétéroclite se construisait alors un corpus théologique et apologétique pour survivre à l'émiettement et surtout pour résister à la vague qui semblait inexorablement submerger les multiples tendances juives jusque-là qui vivaient en même temps et tout d'un coup qui se trouvaient submergées par la vague pharisienne. Avec son légalisme et sa façon de faire peser d'autant plus lourd la loi, que les communautés juives devenaient plus fragiles. C'est donc dans un contexte de resserrement idéologique que s'écrit ce texte. Le récit des mages est une arme pour une guerre interne à la fois de ces juifs de la communauté mathéenne qui ne comprennent plus ce qu'est devenue leur religion. Ils perdent leurs repères et ils sont en train de proposer un Messie, Jésus, qui n'est pas accepté. Du pluralisme admis de façon structurelle dans le judaïsme d'alors, le judaïsme passe alors à un désir d'uniformiser la théologie pour ériger une identité juive monolithique, celle de l'observance. Cette réaction de peur devant la destruction des bases historiques d'une religion peut se comprendre. Par peur de perdre son identité et de se perdre dans une diaspora généralisée, le judaïsme va resserrer ses dogmes alors, les signes d'appartenance. Il veut tracer une ligne plus claire entre ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas. Il veut clarifier sa théologie et retrouver une espèce d'unité qui permettrait de ne pas se perdre. Éviter le pluralisme qui complexifie trop les affirmations théologiques, éviter les mouvements originaux qui apportent une nouvelle interprétation comme le fera le christianisme, bref, éviter les débats en laissant toute la place à la peur de la dissolution dans un monde qui semble n'avoir nulle part une place pour vous. Voilà ce qui se passe quand l'évangile de Matthieu est écrit. N'est-ce pas d'une actualité folle, ce texte-là ? Ne sommes-nous pas dans nos églises chrétiennes menacés de ce repli identitaire qui nous empêche d'avoir la liberté de débat et de confrontation ? Serions-nous, nous aussi, dans un exil, en diaspora, dans un monde qui semble ne plus faire de place au spirituel ou au religieux, ne nous sentons-nous pas un peu perdus parfois ? Les grands scandales qui animent les églises chrétiennes de par le monde ne montrent-ils pas que quelque chose a changé et que le monde dans lequel nous vivons n'est plus prêt à accepter sans s'insurger les exactions multiples faites au nom de Dieu ? Notre propre Église protestante est traversée par ces courants qui brandissent la peur de la disparition pour mieux introduire le règne de la dogmatisation des pratiques religieuses. Alors, ces textes ont pourtant quelques années, mais ils sont toujours très intéressants pour nous, parce que ces communautés qui se construisaient alors et qui essayaient de dire qui elles étaient, avaient pour défi de pouvoir se définir sans exclure le débat et l'accueil de l'autre, du nouveau, de celui qui rejoint la communauté. Alors revenons à la communauté qui se revendique de Matthieu. Elle cherche dans son histoire des motifs susceptibles de combattre ce resserrement des consciences et des interprétations et peut-être même à éviter un schisme. Elle a très peur de se trouver complètement coupée de son judaïsme d'origine. Et c'est ce qui se passera en fait historiquement. Et c'est dans une figure locale, alors qu'ils sont en Syrie, que cette communauté va puiser pour dire ce qu'est le Jésus sauveur auquel ils croient. Et qui, d'après eux, n'est pas un dissident de la Torah, mais celui qui l'accomplit, qui la met en pratique. C'est lui qui donne une nouvelle compréhension de la loi. Et c'est la figure de Cyrus qui va servir de modèle. Mais pour ne pas le citer directement, ce sont ces mages qui vont dire, par leur présence même, ce qui oppose la communauté mathéenne à ceux que l'évangile de Matthieu appelle les scribes et les pharisiens, et qui ne sont autres que les pharisiens eux-mêmes devenus nouveaux dignitaires du judaïsme de la diaspora. Nous l'avons vu en commençant, la fonction des mages n'est pas très connue et c'est ce qui leur vaut le mystère qui semble toujours les entourer. Mais en fait, ces mages sont les prêtres qui gardent le tombeau du grand Cyrus d'après quelques témoignages historiques. Ils sont aussi les précepteurs des futurs rois perses. Ils enseignent à ceux qui auront un peu de pouvoir dans leur vie. Ils sont aussi ceux qui enseignent les préceptes de la religion zoroastrienne, qui prônent le bien, la bonne parole. Et puis surtout, ils sont les agents de la propagation des idées de ce zoroastrisme qui, dans le paysage de l'époque, est tout à fait original. Des idées basées sur la droiture, la fidélité, la bonté, des fruits de la foi que Paul lui-même n'aurait pas renié en quelque sorte. L'évangile de Matthieu s'adresse peut-être tout simplement aux Juifs d'Antioche et d'un de ces quartiers où la communauté juive se réunit. Et figurez-vous que ce quartier s'appelait le quartier Epiphania. Et c'est par la figure d'un sauveur improbable, mais que la tradition juive a retenu comme Messie, parce qu'il avait délivré le peuple juif de Babylone, que l'Évangile va tenter de persuader ses détracteurs. C'est donc la figure de Cyrus le Grand qui est choisie. Écoutez la légende de sa naissance d'après le récit qu'en fait Hérodote. Alors que la mère de Cyrus était enceinte, le père de celle-ci, le roi Mède Astyage, fit deux rêves prémonitoires. Ses sages y laissaient entendre que le fruit des entrailles de sa fille allait dominer toute l'Asie et devenir le nouveau seigneur des Mèdes et des Perses. Atterré par cette prémonition, Astyage ordonna que l'enfant soit assassiné dès sa naissance. Mais le général à qui il donna cet ordre ne put se résoudre à un acte aussi abominable et s'en déchargea sur un berger. Ce dernier apporta le bébé à son épouse et lui révéla la mission qui venait de lui être confiée. Venant de mettre au monde un enfant mort-né, elle échangea les enfants. Voilà comment la vie de Cyrus le Grand fut sauvée, dit Hérodote. On reconnaît ici le motif du rescapé, présent dans les récits d'enfance de nombreux grands personnages de l'Antiquité. Mais au-delà, on donne à Jésus une enfance similaire à celle de Cyrus, avec l'introduction de cette menace d'Hérode et le massacre des innocents, qui historiquement n'eut probablement pas lieu, en tout cas pas à cette époque et pas pour ces motifs. Jésus est le nouveau Cyrus. Il est celui qui apporte la bonté et le bien et qui dessine une nouvelle royauté où tous les croyants sont libres de vivre selon la loi qui libère et non sous la loi qui accable. Voilà le message que nous donne l'évangile de Matthieu et que donnait déjà l'évangile de Matthieu à ses détracteurs d'alors. Une royauté marquée par l'or de la bonne parole, l'encens de la foi sincère et la myrrhe de la compassion. Alors à Antioche-sur-l'Oronte, comment ne pas comprendre en voyant ces mages de l'évangile repartir par un autre chemin ? Que ces porteurs de bien, ces précepteurs de princes qui leur apprennent à se comporter droitement, ces déchiffreurs de songes, ces gardiens du tombeau du grand roi, font le choix de ne pas se soumettre à la peur. Leur boussole, c'est le bien. Ils n'aideront pas Hérode à tuer l'enfant. L'épiphanie que nous fêtons aujourd'hui n'est pas la royauté hégémonique de Jésus sur le reste du monde. L'épiphanie que nous fêtons aujourd'hui encore, 21 siècles après la naissance de Jésus et 27 siècles après la naissance de Cyrus, est la manifestation du règne d'un Dieu d'amour pour ce monde, avec tous ses pluralismes, avec toutes ses façons de dire la foi. Un Dieu qui fait reculer toute peur, dans nos exils désespérés comme dans nos certitudes arrogantes. Dans cet enfant menacé, que des mages viennent du fond des âges entourés de leurs soins et de leur vénération, c'est notre fragilité humaine qui est décrite tout entière, avec ses craintes et ses aspirations, avec ses beautés et ses vulnérabilités. Dieu est dans cette relation décrite dans la visite des mages. Cette relation de soins, d'attention, de protection que les mages ont pour cet enfant et que nous devons avoir les uns pour les autres. Il se fait sauveur entre nous, évangélisant nos relations. Il établit son règne entre nous. Amen. Je vous invite à prendre le cantique 91, qui est la mélodie de Brillante étoile du matin, donc vous devez connaître par cœur. 91, quel est cet astre radieux ? On ne change pas tellement de thème, mais la façon de l'aborder est différente, vous allez voir. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Et nous allons partager quelques annonces, et c'est Aurore qui partage avec nous les annonces ce matin. Pardon ? Oui, je viens. Tu veux comme tu veux.
Bonjour à tous. Pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, meilleurs vœux au nom du Conseil presbytéral et au nom du Conseil de l'entraide. Nous sommes vraiment, vraiment, vraiment ravis de débuter cette année 2023 avec vous. Les annonces cette semaine, on ne va pas à chaque fois tout répéter. Donc, je vous en prie, bonne résolution de l'année. Vous vous inscrivez à la newsletter. Pour s'inscrire à la newsletter, vous prenez vos téléphones. Vous allez tout en bas du site. Et vous vous inscrivez, c'est anonyme, vous donnez juste votre email, on vous demande pas votre 06, votre adresse, etc. C'est vraiment extrêmement simple. Donc, cette semaine, vous avez du grec, vous avez un partage biblique mardi, vous avez les jeûnes mercredi soir, vous avez le culte d'intercession du mardi avec scène. Voilà, vous Vous avez énormément de choses. Samedi prochain, ça n'a d'ailleurs pas encore annoncé, mais Laurent et Dorothée viennent de me le dire, nous avons un goûter convivial, une nouvelle activité animée par les bénévoles de l'entraide. Donc ça sera le samedi, une fois par mois, en salle Roberti, en face, au rez-de-chaussée. Vous avez compris que juste après le culte, nous allons tous, dans la grande sacristie, déguster des galettes préparées par une équipe hier et par la pasteur Béatrice Cléromazir. Donc elles les ont cuisinées. Alors en revanche, Béatrice, je pensais qu'on allait avoir une étoile en fève. Et mon voisin m'a dit qu'il n'y aurait pas d'étoile en tant que fève. Donc si vous n'avez pas la fève, c'est pas très grave. Vous avez déjà eu des étoiles le 24 décembre et le 25 décembre ici, si vous êtes venus. Voilà, mais la fève n'est pas une étoile. Également, sachez que la feuille rose est bientôt dans votre boîte aux lettres pour les donateurs 2022. Donc là, nous remercions vraiment notre imprimeur qui a reçu le bon à tirer, qui nous a délivré le bon à tirer le 26 décembre et nous a apporté les feuilles roses mercredi. Et monsieur et madame Delin, monsieur Barrault, Dorothée Gruel et Yansch les ont mis sous pli. Donc elle est partie jeudi à la poste. Vous l'aurez ici à disposition dans le temple dimanche prochain. Le thème, ce n'est pas la mixologie, on s'appelle la pérole, ça aurait pu être la mixologie, c'est un nom qui s'appelle la misologie. Donc je vous laisse regarder pour dimanche prochain ou pour les donateurs ce que veut dire la misologie. Je vous laisse également lire l'éloge de la raison, relire l'éloge de la raison de Voltaire, parce que comme tu l'as dit, il faut un peu de boussole de plus en plus. Et donc il nous faut raisonner et réfléchir. Et l'illustration de cette feuille rose, qui s'appelle l'éloge de la raison, n'est autre qu'une eau-forte de Goya, qui s'appelle « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». Donc, nous vous laissons préparer la réflexion sur cette feuille, sur la misologie, et nous vous retrouvons juste après le culte pour déguster la galette des rois préparée par Béatrice Cléromazir et quelques bénévoles. Merci, bon dimanche.
Voilà, c'est maintenant le moment de l'offrande. Soyez généreux avec votre Église, puisqu'elle est votre Église, vous êtes l'Église. Donc n'oubliez jamais ça. Sans vous, tout ça n'est pas possible. Merci. Je vous invite à la prière. Éternel, rappelle-nous sans cesse que nous sommes comme Jésus dans nos faiblesses humaines. Rappelle-nous sans cesse que ce qui doit guider notre foi, ce ne sont pas les coupures dogmatiques et les difficultés à te dire, toi l'Éternel, que personne n'a jamais vu, mais le bien que nous pouvons faire autour de nous et créer dans ce monde. Éternel, guide-nous sans cesse pour que nous puissions agir en artisans de paix, sans jamais nous décourager, quand bien même autour de nous, les guerres continueraient inlassablement, comme si les êtres humains n'apprenaient jamais de leur violence. Éternel, apprends-nous cette bonne parole apporté par les mages. Apprends-nous ce bien pour que nous le recherchions sans cesse dans nos vies, dans nos pratiques, et permets qu'il soit toujours à l'horizon de nos vies, ce bien que nous désirons tant et que nous avons tant de mal à faire. Éternel, nous te remettons dans notre monde tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui ont tant de mal à espérer dans l'avenir en ce début d'année. Permets que nous espérions ensemble, contre toute espérance, que nous espérions plus fort que tous les fatalismes, que nous espérions sans cesse pour notre monde le meilleur, quand bien même nous saurions que nous ne pouvons faire qu'une toute petite part de ce bien que tu attends. Nous te remettons, Éternel, tous ceux qui sont en butte à l'intolérance, tous ceux qui croient et ne sont pas compris, tous ceux qui sont objets de violence parce qu'ils veulent la liberté, tout simplement. Éternel, permet que nous soyons à leur côté et que nous annoncions nous aussi cette liberté, afin que toujours ta parole soit émancipatrice et que nous ne soyons pas dans le jugement, mais dans l'accueil et l'amour de l'autre tel qu'il est, aussi déroutant soit-il. Apprends-nous à construire un monde et des institutions qui ne permettent pas ces violences, qui les fassent reculer et qui les empêchent parfois, pour que nous puissions vivre ensemble cette bonne nouvelle apportée il y a tant de temps et qui a tant de mal à exister entre nous, dans ce monde. Ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, allez dans ce monde porter cette bonne parole qui était érigée par les mages au rang de divinité, cette bonne parole qui fait du bien au monde, qui souhaite du bien au monde. Allez, allez porter vous aussi vos trésors dans ce monde qui en a tant besoin. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce nous bénit et nous garde.